Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème d'aujourd'hui est les conditions d'embauche et de travail des gardiens des sociétés de sécurité privée au Niger, limites et perspectives. Comment se fait l'embauche des gardiens des sociétés de sécurité communément appelées vigiles? Quelles sont les principales difficultés auxquelles font face ces gardiens? Les conditions d'embauche et d'emploi de ces gardiens obéissent-elles aux dispositions réglementaires en vigueur au Niger? Comment améliorer davantage les conditions de travail des gardiens des sociétés de sécurité privée? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Seydou Moura et Moussa. Il est le directeur des agences d'emploi privé et des suivis des migrations de main-d'œuvre. Nous avons avec nous Kani Abdoulaye, coordinateur du collectif des ONG pour la démocratie et les droits humains. Monsieur Kani Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Nous avons au téléphone avec nous Monsieur Ibrahim Maman de l'USPT. Pour cette même émission, nous avons invité à deux reprises le collectif des sociétés de sécurité privée, mais sans succès. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Les conditions d'embauche et de travail des gardiens des sociétés de sécurité privée au Niger, limites et perspectives, c'est notre sujet du jour. De plus en plus nombreuses, je vais dire, à Niamey et dans les autres régions du Niger, les sociétés de sécurité privée mettent à la disposition des services ou des organismes qui en font la demande des hommes et des femmes chargés d'assurer la sécurité de leur lieu. Des hommes et des femmes qu'on appelle vigiles dans le jargon populaire. Des sociétés de sécurité recrutent ces hommes et femmes de toutes les catégories avec une formation initiale, souvent pas pour beaucoup d'autres en tout cas. Cela fait d'eux de la main-d'œuvre bon marché. Ces sociétés signent des contrats avec des organismes pour ensuite mettre à leur disposition ces agents de sécurité, communément appelés gardiens ou encore vigiles. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la justesse des modalités du recrutement et des conditions de travail de ces hommes et femmes qui recrutent les sociétés de sécurité privées. Alors, je commence tout de suite avec vous, Kani Abdoulaye, voilà, coordinateur du collectif des ONG pour la démocratie et les droits humains, CODE. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit quand on vous parle des gardiens des sociétés de sécurité privée?
Ok, donc bonjour et merci de nous inviter à ce débat. La première idée qui nous vient lorsqu'on parle des sociétés de gardiennage ou de sécurité privée, c'est d'abord pour nous une privatisation d'un secteur qui s'occupe de la sécurité. La deuxième idée qui me vient tout de suite, tu l'as déjà ébauchée dans ton mot introductif, c'est ces messieurs, ces dames à bon marché que nous voyons qui passent le temps devant nos portes, devant nos services et souvent dans les conditions effectivement de vie. Les conditions de vie et de travail ne girent avec les lois et les instruments internationaux auxquels le Niger est parti. Parce que quand vous prenez le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, on parle d'un emploi décent. Et quand vous pensez que le Niger fait partie de l'un des rares pays, je dis bien au monde, qui est à jour au niveau de tous les instruments, au niveau de l'EIT et du BIT. L'EIT, c'est l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail. À juste titre, le directeur général du BIT, c'est même un Nigérien.
Donc, quand vous dites à jour, c'est-à-dire en termes de signature et de ratification.
En termes de signature et de ratification. Il n'y a pas un pays au monde comme le Niger. Le Niger est même cité en exemple sur ce plan. Mais lorsqu'on regarde effectivement
Sur le terrain,
surtout dans ce domaine, surtout au niveau des agences de sécurité privée, la preuve, ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas venir. Non, c'est parce que souvent, ils craignent des représailles de la part de leurs patrons qui les embauchent. Et la preuve, leurs patrons qui les embauchent ne sont pas aussi ici autour de cette table avec nous, parce que certainement, je ne sais pas, ils ont certainement peur peut-être que des gens qui sont ici, qui connaissent certaines choses, les disent et peut-être qu'après ça va se retourner contre eux.
Voilà, Ibrahim Maman, vous êtes de la centrale syndicale USPT et l'USPT avait en son sein un syndicat, en tout cas des sociétés de gardiennage, des sociétés de sécurité privée, et donc en tout cas des agents de sécurité qui ont fait un syndicat affilié à l'USPT. Quand on préparait cette émission, on avait compris que ce syndicat n'est pas actif. Nous avons voulu vous inviter en tant que centrale syndicale qui avait eu en son sein ce syndicat. Quel mot vous pouvez nous dire sur ce sujet?
Oui, merci, bonjour. Ce syndicat bel et bien existe, mais c'est que ce syndicat n'est pas animé.
C'est ça que nous avons dit qu'il n'est plus actif.
Absolument, absolument, voilà. Mais le syndicat existe et vous savez, pour beaucoup de raisons. Tout à l'heure, M. Kani a commencé à évoquer ça par peur des représailles et autres. Mais moi, je veux vous dire que, en fait, c'est parce que ces agents, peut-être, méconnaissent les textes syndicaux, notamment les conventions. Vous savez, les textes qui instaurent le droit à l'exercice syndical, les textes supranationaux, c'est la convention 89. De l'OIT sur le droit d'exercice syndical et la...
Nous avons perdu la ligne. Voilà, nous revenons au studio, le temps de rétablir cette ligne téléphonique. Monsieur Seydou Mouraï Moussa, vous êtes directeur des agences d'emploi privé et des suivis et des migrations de main-d'œuvre. Quel est le lien qui existe entre vous et ce secteur?
Les sociétés de sécurité privée, en tout cas au regard de la loi, portant code du travail, sont des employeurs au même titre que les autres. Sauf que peut-être ils sont dans une situation un peu particulière, mais ils sont, en tout cas dans leur intégralité, soumis aux dispositions du code du travail. De ce fait, les activités qu'ils sont appelés à mener dans le domaine du recrutement, n'est-ce pas, donc doivent obéir aux dispositions de cette loi-là, portant code du travail. Donc qui réglemente ou du moins qui statue sur les conditions de recrutement et même sur les conditions générales du travail, donc dans leur globalité.
Alors, est-ce qu'au niveau de votre service, quel est le regard que vous portez sur, en tout cas, ces procédures de recrutement, d'embauche, de travail des agents qu'ils utilisent, ces sociétés de sécurité? Est-ce que c'est une procédure qui respecte les normes?
Une procédure qui respecte, en fait, ici, il faut comprendre, quand on dit que telle structure est qualifiée d'employeur, ça suppose qu'elle est soumise aux obligations soumises par la loi portant code du travail. En matière de recrutement, la loi a établi un certain nombre de procédures à respecter. Quand vous prenez le code du travail de l'article 9 jusqu'à l'article 13, il définit un peu les conditions ou les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre du recrutement, donc de leur personnel, y compris naturellement les agences de sécurité privée. C'est-à-dire l'obligation qui leur est faite d'abord de faire connaître leurs besoins au niveau du service public d'emploi. Donc l'obligation qui leur est faite donc de faire connaître leurs besoins en matière de personnel au niveau du service public d'emploi. Et une fois le recrutement effectué, donc de déclarer, n'est-ce pas, la main-d'œuvre qui a été recrutée à cet effet-là. Et maintenant, pour parler un peu des conditions de travail, c'est donc pratiquement les mêmes conditions qui doivent être comme un peu les autres travailleurs qui sont régis par le code du travail, c'est-à-dire les questions de salaire, les questions de santé et sécurité au travail, les questions de protection sociale. Tout ça là, c'est des entreprises également qui sont assujetties à ces normes-là.
Mais d'accord, on sait qu'au Niger, comme l'a évoqué tout à l'heure Kani, le Niger est vraiment à jour, il n'y a pas un pays, il l'a dit, à jour comme le Niger en matière en tout cas de ratification, de signature de textes en matière de travail. Mais sur le terrain, on constate que souvent il y a des abus. Est-ce que dans ce secteur, c'est des choses qui sont fréquentes, sur lesquelles vous avez une certaine attention particulière?
Je dirais que ce n'est pas qu'on ne prête pas attention, parce que nous avons au moins des services du terrain dont la mission est justement chargée de veiller à l'application des textes à la matière, à savoir l'inspection du travail et même le service donc public de l'emploi. Ce sont ces services-là qui sont chargés de veiller à l'application sur le terrain des dispositions législatives et réglementaires, n'est-ce pas, en matière d'emploi, en matière de travail, en matière de sécurité sociale.
Voilà, nous avons rétabli la ligne avec Ibrahim Mamman de l'ISPT. Monsieur Ibrahim Mamman.
J'expliquais tout à l'heure, je vais finir, je disais qu'il y a des conventions, parce qu'il faut commencer par là. Nous, en tant que centrale syndicale, nous ne pouvons que nous poser la question, et qu'est-ce qui empêche à nos camarades, frères et travailleurs des compagnies de sécurité privée de s'organiser? Dépendait de conventions 89 et 91, mais il y a aussi, tout à l'heure, l'intervenant tout à l'heure l'a dit, il y a le code du travail, il y a la convention collective interprofessionnelle au niveau interne qui balise très bien le terrain et qui permet à n'importe quel travailleur, qui qu'il soit, d'évoluer dans une structure syndicale, de défendre ses droits et de porter la défense de ses droits à un niveau et collectif, c'est-à-dire qu'avec ses autres camarades. Maintenant, pour revenir au fond, vous l'avez dit tantôt, nous, au niveau de l'Union syndicale et progressiste des travailleurs USPT, ça fait pratiquement plus de 4 ans maintenant, ou 5 ans, que nous sommes en train de travailler pour permettre à nos camarades travers des compagnies de sécurité de s'organiser en syndicat. Parce que nous avons fini par comprendre que tant que ces travailleurs ne s'organisent pas en structure syndicale et s'affilient aux centrales syndicales, il est difficile. Parce que c'est un secteur où, je veux vous le dire, en connaissance des causes, en ayant des frères qui travaillent dans ce secteur, les travailleurs sont traumatisés. Vous voyez, et l'autre Kani l'a dit, ils ne peuvent pas répondre aux invitations parce qu'il l'a dit, moi je le soutiens sur ce qu'il dit. Est-ce que ce n'est pas par peur de venir et de se faire, de subir les représailles, comme on dit, de leur patron? Mais nous avons voulu que les responsables de ces compagnies-là, leur collectif, soient là pour que nous leur disions certaines vérités. Vous savez, l'injustice, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça ne peut pas durer éternellement. Yeah. Ça, tôt ou tard, ces agents vont finir par s'organiser en structure syndicale et les employeurs au niveau des compagnies, ils seront mieux dès aujourd'hui de permettre à nos camarades de s'organiser et d'évoluer, parce que le jour où ils vont se réveiller là, ils vont vouloir réformer beaucoup de choses.
Bien.
Vraiment.
Oui. Nous remarquons aussi que il y a certains parmi eux qui ne connaissent pas ce droit de syndiquer, et il y en a aussi qui arrivent à créer même ces syndicats, mais qui ne durent pas. Vous êtes la deuxième centrale syndicale que nous avons contactée, dont il y avait eu des syndicats affiliés à ces centrales, mais aujourd'hui, ces syndicats ne sont plus actifs. Donc, quelque part, il y a effectivement ces questions. Monsieur Kani Abdoulaye, nous revenons au studio. Voilà, vous avez commencé à évoquer cette question, en tout cas des représailles pour lesquelles les gens ont peur. Est-ce que réellement, c'est par méconnaissance des textes que ces gens n'ont pas le courage d'être organisés et d'être persistants autour d'une association, autour d'un syndicat?
Je ne peux pas dire que tout de suite, que c'est par méconnaissance, pour la simple bonne raison que tous les deux, vous venez de dire que vous avez constaté qu'il y avait des syndicats qui étaient affiliés à des centrales syndicales. Or, le rôle d'un syndicat ou d'une centrale syndicale, lorsqu'un syndicat est affilié à une centrale syndicale, son rôle aussi, c'est effectivement de former ses membres à connaître leurs droits, leurs devoirs et leurs responsabilités. Et je pense que, comme il l'a rappelé à travers les conventions qu'il a notées, où lorsque vous êtes employé, il y a un nombre, dès que vous le dépassez, effectivement, vous pouvez créer un syndicat. D'ailleurs, il est plus facile de créer un syndicat que de créer une ONG ou une association. Parce que c'est un régime déclaratif. C'est juste un régime déclaratif. Or, quand tu sors aujourd'hui, il y a d'ailleurs plus aujourd'hui de visiles que d'élèves à Niamey. Donc on ne peut pas me dire que c'est parce qu'il manque de militants. Non, ce n'est pas parce qu'il manque de militants, mais de mon point de vue, c'est parce que je reviens toujours à la charge. C'est parce que ces gens ont peur de représailles. Parce qu'ils ont des employeurs
qui souvent, effectivement, les menacent. J'en connais parce que un moment, nous avons tenté, effectivement, au niveau même africain, d'avoir un réseau sur ce qu'on appelle la sécurité privée.
Ouais.
Pour effectivement essayer de sensibiliser non seulement leurs employeurs, mais les employés aussi. Pourquoi ? Regardez aujourd'hui, quand vous sortez, quand vous voyez un vigile, c'est lui qui est chargé d'assurer votre sécurité. Mais il faut, est-ce que, demandez-vous, est-ce que lui-même il est en sécurité d'abord pour pouvoir assurer votre sécurité ?
Ouais.
C'est cette question d'abord qu'il faut se poser.
Pour aborder la question à proprement dite, des difficultés que vivent les agents de sécurité, nous avons cherché en tout cas des témoignages de ces agents en vain. En tout cas, personne n'était prêt à parler au micro de peur des représailles, justement. Nous avons juste pu soutirer quelques informations, donc, en hors micro. Mais en tout cas, aucun agent n'était prêt à se hasarder à parler dans notre micro. Quelles sont, si vous devez énumérer, les principales difficultés auxquelles font face ces gardiens? S'ils ont peur, ces gens ont peur des représailles, est-ce que quelque part c'est parce que certaines procédures ne sont pas respectées? Je ne sais pas.
Justement parce que là, je vais regarder mon ami qui est en face de moi.
Ouais.
Pourquoi? Parce que le ministère de l'Emploi, quand même, c'est le ministère qui est en charge de cette politique, de la politique de l'emploi au Niger. Et c'est ce ministère qui a aussi l'arsenal pour regarder autour ce qui se passe. Oui, je peux concéder que souvent, on regarde faire parce qu'on estime que c'est des pères de famille et qu'on a peur que par représailles, qu'ils se retrouvent dans la rue. Si toutes les conditions de recrutement ont été respectées, pourquoi quelqu'un qu'on recrute pour aller assurer la sécurité, on parle de sécurité, hein, qui à peine il est payé souvent 20 000 à 30 000 francs. Vous regardez, il n'a même pas une tenue correcte pour faire face au travail pour lequel il est recruté. Lorsque celui-ci réclame, le lendemain même, on peut le
remplacer,
sans aucun droit. Ces employeurs, s'ils m'écoutent, j'ai le défi de venir me dire celui qui a inscrit un seul à la Caisse nationale de sécurité sociale. En tout cas, jusqu'à une date très récente de venir nous dire. Or, nous savons dans certaines grandes sociétés, ou même dans le système des Nations Unies, je pars vers eux, qui signent des contrats de montants faramineux avec ces sociétés de sécurité des gardiennages. Oui. Mais regardez ce qui revient à ceux qui sont chargés d'aller faire la mise en œuvre sur le terrain. Oui. Je pense que c'est inhumain. Et je pense que l'autorité doit faire en sorte que force reste à la loi.
Justement, en tout cas, il y a cette question de sécurité sociale qui a été évoquée par certains d'entre eux. Donc, ils ne sont pas inscrits, ils ne bénéficient pas donc de la sécurité, en tout cas des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est l'un de leurs droits étant des salariés. Monsieur Seydou Mouray, ces gens, en tout cas, sont confrontés à certaines difficultés, notamment à cette question de sécurité sociale. Comment vous analysez cet état de fait? Comment on peut utiliser un travailleur aujourd'hui, salarié, qui ne puisse pas être inscrit à la Caisse nationale de sécurité sociale, alors que ces derniers exercent une fonction de sécurité?
À ce niveau-là, je pense qu'il faut relativiser un peu. Parce que dire que l'ensemble des agences de sécurité privées n'assurent pas la protection sociale de leurs travailleurs au niveau de l'organisme de sécurité sociale,
c'est
un peu trop dire.
Pourquoi?
Parce que c'est nous qui avons, si vous voulez, les moyens de contrôle. C'est vrai, jamais, on ne peut pas dire que tout est rose. On ne peut pas le dire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a la maîtrise totale de la situation. Mais c'est que, même si des cas arrivent là, il faut prendre ça peut-être dans le compte de peut-être une partie de l'ignorance et un peu les insuffisances des moyens de contrôle. Par contre, quand vous prenez par exemple ces agences, ce sont des agences de mise à disposition du personnel. C'est nous qui leur délivrons l'agrément pour qu'ils exercent l'activité de mise à disposition du personnel. Et avant de délivrer cet agrément-là, il y a un contrôle qu'il faille faire d'abord. Parce que l'agrément n'est pas donné de façon définitive.
C'est
pour une durée. C'est pour une durée. Et quand ça va arriver à expiration, vous avez besoin d'un renouvellement. Et quand la demande de renouvellement arrive, il y a un certain nombre de conditions qu'il faille remplir. Non seulement il faut être à jour vis-à-vis des textes en matière d'emploi, de travail et de sécurité sociale, parce qu'il faut que nous ayons une attestation en bonne et due forme signée conjointement par la Caisse nationale de sécurité sociale qui atteste que le promoteur est à jour dans le paiement de ses cotisations, au niveau de l'inspection du travail qui atteste que l'institution n'a pas d'arrêt de salaire vis-à-vis de son personnel, et au niveau de l'inspection et au niveau de la NPE qui attestent que l'agence en question agit en parfaite collaboration avec le service public d'emploi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en fonction, en matière de mise à jour de ces questions de sécurité sociale? Est-ce qu'on peut dire que 50% d'entre eux inscrivent leur agent et 50% non?
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cas qui échappent. Ça, c'est indéniable. Et puis, nous ne sommes pas les seuls à faire ce contrôle-là. Vous savez que même les entreprises utilisatrices qui sont regardantes
regardent est-ce que l'agent qui a été mis à sa disposition est dans les conditions.
Oui, pratiquement, il y a une bonne partie. Quand vous prenez, par exemple, la plupart des agents qui sont mis à disposition, par exemple, au niveau surtout des agences du système des Nations Unies, et il faut qu'ils regardent combien tu vas payer à l'agent. Il faut qu'on soit d'accord sur ce que vous avez payé, parce qu'ils le connaissent, la portée, l'enjeu de la chose. C'est vrai qu'il y a des cas, comme il dit, il y a des cas qui peuvent échapper, il y a des cas où, il y a beaucoup de gens qui peuvent se trouver dans des situations inconfortables, mais c'est que les services de terrain mènent un contrôle. Et comme je l'ai dit, il n'est pas évident qu'ils puissent couvrir l'ensemble. Oui, naturellement.
Monsieur Ibrahim Maman de l'USPT, l'Union syndicale progressiste des travailleurs. Alors, quelles sont les autres difficultés, en tout cas, que vous pouvez nous citer, que vivent ces agents de sécurité des sociétés privées?
Il faut peut-être d'abord expliquer à nos auditeurs pourquoi, généralement, pour l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a des réticentes. Comme on l'a dit, vous savez, il y a beaucoup d'agents de sécurité. Si vous voyez, il y a un camarade qui dit qu'ils sont même plus que les élèves. C'est l'employeur qui engage un travailleur. Il a l'obligation, la semaine qui suit, de déclarer ce travailleur au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et à partir de la déclaration, chaque trimestre, il y a un pourcentage de son salaire qui doit être versé au niveau de la Caisse nationale de sécurité. En fait, c'est 25,5%, donc 20% que l'employeur doit verser, 20% du salaire et 5,5% est dans le salaire du travailleur. Donc vous voyez, c'est une somme plus ou moins considérable. Donc généralement, les employeurs dans beaucoup d'entreprises ou de sociétés préfèrent passer par des voies qui ne sont pas catholiques pour échapper à ce versement. Voilà. Et je suis d'accord avec celui qui dit que pratiquement tous les agents de sécurité des compagnies privées et de sécurité ne sont pas inscrits à la caisse. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un qui est inscrit, même s'il y en a, c'est minime, je vous assure, c'est minime. Il y a beaucoup de raisons. Au-delà de ça, il y a aussi la prise en charge médicale qui n'est pas assurée au-delà de la caisse. Il y a une prise en charge qui doit être... Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de raisons. Parmi les raisons, moi je peux citer, je vous ai dit que nous avons pratiquement 5 ans ou 6 ans sur ce dossier. Il y a le fait qu'au niveau des compagnies privées, on recrute parfois des gens qui ne font pas de ce travail leur emploi définitif. Par exemple, vous allez voir des compagnies qui recrutent des étudiants qui peut-être font le gardiennage la nuit ou bien une fois, deux fois par semaine. Donc, ils ne font pas de ce travail un travail définitif. Du coup, ils ne sont pas intéressés par la pérennisation de ce travail à travers la sécurité sociale et la prise en charge. C'est vrai, ça, c'est pas une raison.
C'est pas une raison, puisque dès qu'il y a un contrat de travail entre un employé et un employeur, il y a ces liens de subordination, il y a un salaire.
Est-ce que en les engageant, on leur signe des contrats de travail? Là,
c'est une question aussi qu'on se pose.
Oui, là, il faut interpeller le pouvoir public qui fait du laxisme, notamment l'inspection du travail.
En tout cas, nous avons la direction des agences d'emploi privé qui est là avec nous.
Absolument. De l'autre côté aussi, vous allez voir que parmi ces mêmes agents, il y a une catégorie qui est recrutée, qui fait le même travail que les autres, qui sont appelés peut-être des contrôleurs ou bien je ne sais pas quoi. Maintenant, l'employeur utilise ces contrôleurs pour instaurer une peur sur les autres agents qui sont au niveau des postes. Vous l'avez dit, même le fait de s'exprimer, le fait de dire certaines choses, c'est un problème parce qu'ils vont penser que si je parle aujourd'hui, demain, je serai chassé et je vais... C'est un travail où la personne va faire 48 heures et 72 heures sur son poste, il quitte pour 24 heures de repos, il revient, il trouve qu'il a été remplacé. Sans aucune explication, et vous allez voir que un agent va vous dire que le 15, le 20, il n'a pas encore son salaire parce que l'employeur attend que c'est lui pour qui il a été recruté verse pour qu'il soit payé, alors que dans le contrat, c'est pas comme ça. Dans le contrat, le service doit même signer, selon nos informations, un engagement à payer au moins 3 mois sans qu'il y ait de problème de versement.
En tout cas, Ibrahim Maman, en tout cas, toutes ces questions que vous avez évoquées, c'est des choses en tout cas qui nous ont été confiées par des gens avec qui nous avons discuté, notamment cette question de sécurité sociale, cette question de prise en charge médicale, question aussi du retard des salaires, mais aussi encore certains qui nous disent qu'ils travaillent 6 jours sur 7 dans certains cas, et il y en a qui n'ont pas de repos les jours fériés.
Tout à fait. Non, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pas leur nombre qui leur permet de se défendre très bien. Il faut une prise de conscience. Et nous, au niveau de l'Union syndicale progressiste des travailleurs, je vous assure que nous sommes sur ce dossier. Ça fait des années, nous sommes en train de faire un travail de fournir de base, comme on dit. Et je vous assure que dans les années qui suivent, ces agents, nos frères, vont s'organiser et ils vont défendre leurs droits. Parce que, vous savez, il y a aussi il y a la complicité parfois, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de ce sujet. Pratiquement tout le monde sait les conditions dans lesquelles. Vous allez voir, un agent de sécurité qui est là une journée, il n'a pas mangé. S'il vous plaît, il assure la sécurité de quelqu'un ou bien il se met en insécurité. Vraiment, c'est des choses qu'il faut qu'on sorte. Nous sommes la centrale qui s'est beaucoup intéressée à ces agents, et je vous dis que ce syndicat existe, il a été créé. Je gère actuellement un dossier, un agent qui travaille dans une compagnie de sécurité depuis 2007, pratiquement et 10 ans aujourd'hui, et un jour, on lève, on se dit que bon, il a été licencié parce que le service, l'agence qui
l'utilisatrice
a perdu le contrat et il a été licencié, aucun droit. Rien, il n'a rien, et il est assis aujourd'hui, il est en train. Mais ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas prendre un Nigérien, un travailleur, pendant plus de 10 ans, vous le faites travailler, et un beau matin, sans aucune procédure, vous dites qu'il est licencié parce qu'on a perdu le contrat.
Et pas d'indemnité.
Il n'y a rien, on ne lui a rien donné.
Monsieur Ibrahim, nous allons revenir au studio pour permettre aux autres aussi de s'exprimer.
Oui.
Voilà, oui. Monsieur Seydou Mouraï Moussa, directeur des agences d'emploi privé et de suivi des migrations de main-d'œuvre. Vous avez écouté en tout cas ces difficultés soulevées, sécurité sociale, absence de sécurité sociale, de prise en charge médicale pour certains, le nombre d'heures de travail souvent qui dépasse, pas de jours fériés, les retards dans le paiement des salaires. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un laissé-passer du côté de l'autorité publique qui est censée avoir un regard strict sur l'emploi des Nigériens?
Pas laisser passer. Parce que le contrôle que nous faisons, c'est justement un contrôle pour que les dispositions légales soient respectées. Maintenant, le contrôle, comme je l'ai dit, ça peut se réaliser jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain seuil. Il faut dire aussi que c'est vrai que c'est aussi la responsabilité des pouvoirs publics de veiller à ce que ces droits soient respectés. Mais c'est que le pouvoir public a aussi besoin de la collaboration de ce personnel-là. Quand toi, il y a un problème qui est en train de te miner. Et tu te tais tu te mets, comme on dit, sous la crainte de représailles.
C'est
parce
les
que l'inspecteur
même
de travail fait un contrôle. Mais c'est que aussi, si vous avez un problème, le premier réflexe, c'est aussi de vous rendre là-bas. Parce que l'inspecteur de travail n'est pas censé savoir. Oui, n'est pas censé savoir d'inclination tant qu'elle n'est pas sur le terrain. Parce que la visite qu'elle fait, ce n'est pas ce qui se fait chaque jour de l'entreprise. Si aujourd'hui elle est dans cette entreprise, demain c'est une autre. Maintenant, le problème que vous avez, si il arrive que peut-être l'inspection de travail n'a pas eu l'occasion de passer là-bas et que vous avez un problème particulier qui vous mène au niveau de l'intérêt du travail, mais le réflexe, parce que l'institution là, elle a été créée pour ça, c'est pour prendre en charge les réclamations des travailleurs, leurs plaintes, et de voir comment est-ce qu'il faut les
examiner.
Mais encore faudra-t-il que cela soit porté à sa connaissance. Maintenant, il y a également le cas de notre ami de l'USPT. Parce que là, je pense qu'aussi les organisations syndicales ils ont un rôle d'encadrement vraiment à,
qui a été un rôle à jouer
dans le sens de l'encadrement de ce personnel. Parce que
pour la connaissance
pour
des
la
différentes
connaissance,
lois,
oui, il faut que ces gens-là soient encadrés. Je vais vous donner un exemple. Parce que hier, quand vous étiez passé me voir, oui, je vous disais qu'à partir de 11h, j'ai un engagement.
Oui.
C'est pour aller animer une formation des délégués du personnel. Oui. Et vous savez qui a organisé ça?
Oui.
C'est le syndicat des travailleurs du commerce.
Oui.
Parce qu'elle veut que ces militants soient sensibilisés. Quels ces délégués-là, ils sont élus. Oui. Il faut qu'on leur fasse connaître quels sont leurs devoirs pour qu'ils puissent sensibiliser les collègues qui les ont élus.
Oui.
Donc, c'est des actions comme ça qu'il faut pour vraiment encadrer les travailleurs.
Oui.
Parce qu'il ne faut pas les laisser comme ça à leur sort. Oui. Les pouvoirs publics peuvent faire ce qu'ils peuvent. Mm. Mais le reste, vraiment, il doit avoir un relais quelque part.
Mm.
En tout cas, à travers les structures de représentation telles que les syndicats.
Mm. Monsieur Kani Abdoulaye, au vu de ce que nous venons de nous dire par rapport aux difficultés, aux problèmes qui vivent ces agents, est-ce qu'il est exagéré de parler d'esclavage moderne dans ce sens?
Ok, le terme, je ne dis pas qu'il est excessif, mais il n'est pas modéré. Mais je pense qu'il n'est pas aussi loin de ça, parce que vous ne pouvez pas venir faire travailler des hommes et des femmes, surtout dans un contexte aujourd'hui d'insécurité au Sahel, et de venir effectivement exposer ces gens qui sont chargés d'assurer la sécurité, parce que c'est des agences de sécurité privées, et ne pas les créer les conditions minimales d'existence pour pouvoir faire le travail. Je pense que c'est sur cet aspect que les pouvoirs publics doivent être regardants. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Quand j'ai dit qu'ils ne déclarent pas, qu'est-ce qu'ils font? Sur 100, vous allez remarquer qu'effectivement, pour pouvoir avoir ces kitis, on déclare 10 ou 5 ou 15 qu'on pense qu'ils sont utilisés par un organisme qui est très bien connu.
Et qui est regardant peut-être
aussi. Donc voilà comment effectivement ces agences font. Et nous savons comment ces agences...
Monsieur le directeur,
nous savons comment ces agences...
Nous
savons comment ces agences opèrent. Nous avons des rapports. Et nous savons comment ces agences opèrent. Mais je pense qu'il est effectivement aussi du devoir de ces agences d'assumer leurs responsabilités et de faire en sorte que ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité, que ces gens même soient vraiment en sécurité. Parce que vous ne pouvez pas assurer la sécurité de quelqu'un lorsque vous-même, vous n'êtes pas en sécurité. Vous pouvez demander à quelqu'un d'aller défendre l'intégrité, par exemple, du territoire alors qu'il n'a même pas une arme. Vous pouvez faire poster quelqu'un devant votre maison alors qu'il a faim. Il a faim. Il n'a même pas une belle couverture avec, comment on appelle ça, ce froid.
Ouais.
Vous pensez qu'il va assurer votre sécurité? Non, il ne pourra pas assurer votre sécurité.
Et par rapport au paiement aussi, ils sont sous-payés. J'ai échangé avec quelqu'un qui me dit qu'il est payé 40 000. Et selon les informations qu'il a eues, la société reçoit jusqu'à concurrence de 150 000 en son nom. Il y a des cas comme ça.
Justement, il y a des cas comme ça aussi. Comment ils font? Ils essayent effectivement avec là où ils ont un contrat, un gros contrat pour ne pas dire un contrat juteux, pour pouvoir effectivement souvent harmoniser et donner à tous. Or, moi, de mon point de vue, au moins le pouvoir public aurait pu faire en sorte que, puisque c'est des employeurs, comme il l'a dit, c'est des employeurs, qu'au moins le SMIC soit respecté, qu'ils soient inscrits, que leur effectif soit connu, parce qu'on ne connaît pas leur effectif.
La connexion,
les effectifs qui sont chez eux, ce n'est pas ça les effectifs réels. Ils donnent juste un effectif parce qu'ils savent que...
L'effectif qu'on pense pouvoir assurer, qu'on pense pouvoir justifier.
Justement parce qu'on pense que tel organisme ne va jamais accepter quand c'est en deçà de ça. Parce que si vous dites au moins, s'ils disent que c'est seulement à votre contrat, là, ils peuvent comprendre d'abord les effectifs. Ça, c'est deux d'abord. Les effectifs. Deux, faire en sorte qu'ils soient inscrits au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour leur propre sécurité.
Et leur famille.
La troisième chose, c'est effectivement cette prise en charge médicale dont tu as fait cas. Il faut effectivement que, oui, quand quelqu'un est malade ou que quelqu'un, par exemple, là-bas, il s'est fait blesser par un brigand alors qu'il a assuré la sécurité de quelqu'un, comment voulez-vous que lui... Comment lui il soit soigné. Or, vous aujourd'hui, si vous êtes malade ou votre enfant, vous avez au moins 80% que l'État vous verse. Mais pourquoi eux, ça ne se fait pas?
Vous voulez réagir, monsieur Seydou Mouraï Moussa?
En fait, je voulais dire que, en fait, à la matière, ce n'est pas qu'il y a un terrain vide. Le terrain n'est pas vide parce que les textes ont tout balisé. Du point de vue des conditions générales du travail et de la rémunération. Parce que quand vous venez en ce qui concerne la rémunération, le décret d'application du code du travail dit que le salaire, puisque c'est des agents mis à disposition, le salaire d'un agent mis à disposition ne doit pas être inférieur à celui d'un agent qui occupe le même poste dans la même entreprise. Seulement, il faut comprendre une chose. Peut-être que la disposition, elle est trop forte. Elle est trop forte. Parce que vouloir aligner ce salaire-là au même degré que celui qui est de l'entreprise, ça va être difficile. En pratique, en tout cas.
Oui,
Parce que déjà, lui, il a un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice.
Oui.
Donc, étant donné que ce n'est pas de la philanthropie qu'ils font, c'est clair, ce n'est pas de la philanthropie.
Oui.
De la philanthropie. Il faut qu'ils trouvent au moins. Je suis d'accord que
qu'ils fassent des bénéfices.
Qu'ils fassent des bénéfices. Mais je suis d'accord aussi que ces gens soient payés de façon décente. Mais c'est qu'on ne peut pas mettre en pratique cette disposition-là qui dit qu'il faut aligner le salaire de ce salaire-là au salaire que notre. Parce que lui, c'est le salaire-là qu'on va verser à l'entreprise de travail, à l'entreprise de mise à disposition. Et il faut qu'elle puisse avoir quelque chose, ne serait-ce que pour payer les impôts et les autres charges sociales.
Autre difficulté, selon nos informations, il n'y a pas de texte de loi, en tout cas spécifique, qui encadre ces secteurs.
Là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de texte de loi quand même.
La sécurité privée.
La sécurité privée. Oui. Parce que nous, puisque nous, de notre côté, nous, on les assimile à des employeurs.
À des employeurs.
Les employeurs et qu'à ce titre, doivent être traités au même titre que les autres employeurs. Je ne sais pas, il n'y a pas de texte en cas du point de vue de l'emploi ou bien de l'exercice même du métier.
De l'exercice de sécurité privée. En tout cas, nous avons cherché à savoir, il n'y en a pas. En tout cas, selon toujours nos informations, c'est quelque chose qui est en cours.
Je me pose la question de savoir sur quelle base le ministère de l'Intérieur leur délivre des agréments pour exercer cette activité-là. Parce que c'est une activité qui participe du maintien de l'ordre.
Oui. Selon vous, pour terminer, comment améliorer les conditions de travail des gardiens des sociétés de sécurité privée, leur permettre de jouir des différents droits auxquels ils ont droit? Nous avons en ligne M. Ibrahim Maman de l'USPT, l'Union syndicale progressiste des travailleurs.
Vous savez, comme nous l'avons dit, le fait, l'absence de structure syndicale dans un secteur ne doit pas empêcher, en principe, que les droits par rapport à tout ce qu'on a dit de travail soient assurés. Ça, c'est un idéal. C'est parce qu'on estime que c'est dans un cadre syndical que la défense des droits peut se faire d'une manière et très bien. Mais quand même, à l'absence même de ces structures, nous devrons prôner que ces travailleurs-là, vraiment, on doit penser à eux et faire tout. Nous sommes, par exemple, une centrale syndicale. Et certes, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait une structure syndicale nationale au niveau de ces secteurs, mais quand même, ça n'empêche pas que, au-delà de ça, nous sommes en train de faire un travail. Par exemple, parallèlement à la création du syndicat, nous sommes sur un dossier de projet de convention collective interprofessionnelle dans le secteur du gardiennage qui va impliquer non seulement les travailleurs, comme on les appelle les vigiles, leurs employeurs, mais aussi les services qui font les demandes à leurs employeurs de leur mettre à disposition des agents et aussi l'incontournable autorité de l'État. Parce qu'il faut donc que nous avons ici au moins 4 partenaires et ça fait des années sur ce projet et nous estimons que ça va aller. Et parallèlement à la création du syndicat, et même si le syndicat n'est pas actif, nous, en tant que centrale syndicale, nous avons le droit d'approcher qui de droit pour que ce document puisse suivre le cheminement qu'il faut pour que dans ce secteur, au moins ce qu'il y ait. L'autre l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, l'absence de texte, c'est vrai. Même s'il y a un texte, peut-être c'est le texte qui lie l'État et ses compagnies de sécurité, mais il n'y a pas un texte général qui clarifie les rapports. Vous voyez, par exemple, quand on prend 200 000, 150 000 au nom d'un travailleur et on le paye moins du SMIC, on le paye peut-être 30 000 ou 25 000 ou bien même 40 000 et on estime que c'est bien, c'est dans un état, on peut continuer comme ça, mais ça ne se fait pas. C'est pas bon.
Bien.
Moi, j'estime qu'il faut faire. Parce que, et l'autre l'a dit, si on estime qu'un travailleur mis à disposition doit avoir les mêmes. Mais vous allez trouver que dans le service où le vigile est parti être déposé pour assurer les gardiens, il n'y a pas d'autres gardiens. Donc, il ne peut pas trouver un travail.
Il n'y a pas une base sur laquelle on va dire qu'il doit avoir le même salaire.
Absolument, absolument. Donc, moi, je disais que nous, au niveau de l'ISPT, pour meilleure solution, nous sommes en train de vouloir.
Organiser ce secteur, oui. Notamment avec ce projet que vous avez l'intention. Merci, oui, monsieur Ibrahim Mamman. Nous revenons au studio pour donner en dernier à nos deux invités, Kani Abdoulaye, sur quoi mettre aujourd'hui l'accent pour mettre à l'abri ces agents de sécurité, en tout cas permettre aux différentes parties de respecter et de jouir de leurs droits et devoirs.
Je pense en une minute ou deux minutes, deux choses. La première des choses, il l'a dit, c'est la convention interprofessionnelle.
Spécifiquement pour ces gens.
La deuxième chose, il faut qu'il y ait effectivement une législation qui encadre la sécurité privée au Niger. Et ça, c'est effectivement au niveau du ministère de l'Intérieur.
Oui.
Un moment, dans le cadre effectivement de ces réseaux au niveau mondial,
oui.
Nous avons essayé parce que nous avons vu dans certains pays, c'est avancé par exemple aujourd'hui quand vous partez au Sénégal, c'est avancé quand vous partez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons fait avancer, dans des pays comme le Mali, nous avons fait avancer. Mais effectivement ici, ce n'est pas encore avancé parce que au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est juste la société. On fait celui qui est parti demander une enquête de moralité, mais ça ne concerne pas effectivement les agents, même leurs conditions de travail, les moyens qu'ils vont utiliser, la tenue qu'ils vont utiliser, parce qu'effectivement, il ne faut pas souvent qu'on les confonde aux forces de défense et de sécurité. Donc il y a tout ça là.
Ouais.
Je pense que
qui devrait être clarifié.
Clarifié effectivement.
Monsieur Saïdou Mouraï Moussa. Sur quoi vous concluez cette émission autour de ces gens et
En tout cas, moi, je trouve que l'idée d'une convention collective, comme l'a dit le représentant de l'USPT, c'est en tout cas une idée qu'il faut saluer.
Oui.
Mais en tout cas, nous, au niveau du ministère, déjà, nous sommes dans une phase d'assainissement de ce secteur-là, le secteur de la mise à disposition.
En quoi fait ça ?
C'est-à-dire, nous sommes en train de compléter, de chercher à prendre les textes complémentaires. Parce que vous savez que le Code du travail, c'est récemment qu'il a eu sa partie réglementaire. Or, il y a beaucoup d'autres décrets à prendre. Donc, ça que nous sommes en train de prendre, notamment par exemple l'arrêté, qui fixe la caution. Parce que nous allons maintenant instituer une caution pour ces agences de mise à disposition. Parce que la loi l'a prévu, mais il fallait que la partie réglementaire intervienne pour fixer les modalités, n'est-ce pas, de mise en œuvre de cette.
Quand vous dites caution, vous faites allusion à quoi?
Ça doit être une somme d'argent que l'intéressé va déposer ou à liquide ou sous forme d'une garantie bancaire. C'est-à-dire qu'il fait un dépôt, par exemple, puisque nous avons une caisse de dépôt et de consignation.
Oui.
Il fait un dépôt au niveau de la caisse de dépôt et de consignation ou alors qu'il a une garantie d'une banque qui se porte garante de, n'est-ce pas, de le soutenir dans le projet. Et cette caution-là, elle est destinée justement, n'est-ce pas, à faire usage, c'est-à-dire en cas de défaillance.
En cas de défaillance constatée,
de faire face aux salaires et autres charges dues par l'institution. C'est ça, en fait, l'objet de cette caution-là que nous entendons instituer. Et après, quand nous aurons fini cela, nous allons, en fait, il y a quatre projets d'arrêté. Quand ils vont être adoptés, ça ne va pas tarder dans tous les cas. Nous avons encore l'intention de les convoquer à un atelier d'information et de sensibilisation. L'ensemble de ces agents de mise à disposition là, pour les convoquer à un atelier d'information et de sensibilisation. D'abord, pour les porter à la connaissance, ces textes-là que nous avons élaborés, et, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer, les conditions, la nouvelle conduite à tenir dorénavant par rapport aux nouvelles dispositions qui ont été prises.
Merci à tous, et nous terminons sur ces mots, sur cette question des conditions d'embauche et de travail des gardiens des sociétés de sécurité privée au Niger, limites et perspectives. Il ressort de cette émission que les vigiles qui travaillent au compte des sociétés de sécurité privée vivent dans des conditions difficiles. Certains de leurs droits, notamment leur inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale, leur prise en charge médicale, le respect des horaires de travail, ainsi que d'autres droits dont ils sont censés jouir en tant que travailleurs salariés ne sont pas effectifs. Au vu de tout ceci, il n'est pas exclu qu'on parle d'exploitation, voire même d'esclavage moderne. La centrale syndicale USPT, Union syndicale progressiste des travailleurs, a fait savoir qu'elle est sur un projet de convention collective interprofessionnelle qui pourra améliorer toutes ces insuffisances constatées. Nous étions en compagnie de Kani Abdoulaye, coordinateur du collectif des ONG pour la démocratie et les droits humains, Ibrahim Mamman, qui est de la centrale syndicale USPT, Union syndicale progressiste des travailleurs, et M. Seydou Mouraï Moussa, voilà, directeur des agences d'emploi privé et des suivis des migrations de main-d'œuvre. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. La technique est assurée par Hussein Issaka. Bonsoir.